Boomerang avec Ariane Nouchkine, 68, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a sous les pavés ? Pour ouvrir cette semaine 68 sur France Inter à l'occasion du 50e anniversaire de mai, je pense à un objet, le pavé. Ce bloc de pierre utilisé pour le revêtement de la chaussée qu'on a fini par recouvrir. Icône de la ville, du passé, datant du XIIe siècle. Icône de la voie piétonne avant qu'elle ne soit bétonnée. Icône de la lutte aussi, puisque c'est souvent à coups de pavé qu'on a construit des barricades ou qu'on s'est rebellé contre l'ordre établi. Le pavé que l'on décollait, que l'on déchaussait, que l'on déterrait pour construire un autre monde ou simplement rêver de liberté. Le voici figé dans le souvenir, dans l'industrie du souvenir. Où sont passés les millions de tonnes de pierre, cette carrière de granit, ces milliards de pavés que l'on battait volontiers? Je ne les vois presque plus, j'ai beau chercher. Quand ils ne sont pas recouverts sous une couche de bitume à Paris, on les retire de la chaussée pour être nettoyés, recyclés, revendus à de drôles de marchands de passé, aménageurs, architectes d'intérieur, créateurs de nostalgie en ligne ou dans des coins branchés. Les pavés qui étaient si peu commodes, bruyants, inconfortables, pour ne pas dire dangereux en talons ou en pneus, les voilà synonymes de cachets. Tu parles d'un autre monde ou de rêve de liberté.
Boomerang,
boomerang. Mai 68.
Augustin Trapenard.
Ça se dans tous les sens. Ce sont des dizaines, des centaines de cailloux, de pavés qui volent maintenant. Des voitures se remrouillent. Aïe la vache.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Mon invitée d'aujourd'hui est-elle de celles qui lancent des pavés ou se contentent-elles de le battre, le pavé, au gré de ses voyages, de ses tournées, de ses rencontres? Le pavé, quoi qu'il en soit, elle le tient haut, femme de théâtre, femme engagée, femme de mots et d'images. Elle est de la génération de celles et ceux qui n'avaient pas 30 ans en 68. 50 ans plus tard, quel regard porte-t-elle sur ces événements qui ont fait date? Bonjour Ariane Nouchkine.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Tout d'abord, qu'est-ce qu'il symbolise pour vous, le pavé, cet objet emblématique de 68 dans l'imaginaire collectif?
Oh, écoutez, à part sous les pavés la plage, moi je ne ferais pas du pavé le symbole de 68, parce que ce serait, au fond, peut-être ce serait dommage de faire du pavé le symbole de 68.
Et sous les pavés la plage?
Voilà, bon, ça c'est un slogan, presque c'est un poème. Hein. Mais, et Dieu sait s'il y a eu de belles choses écrites sur les murs à ce moment-là.
Alors c'est intéressant, parce qu'effectivement, quand je vous ai demandé un symbole de 68 pour vous, vous avez choisi un lieu qui nous emmène à une centaine de kilomètres de Paris, et bien avant 68, les Salines Royales d'Arc-et-Senans.
Oui, parce que bon, c'est un endroit où nous étions, nous avons passé l'été 68. Après mai 68, le Théâtre du Soleil a été, au fond, invité à camper, parce qu'on ne pouvait pas y faire grand-chose d'autre, dans les salines d'Arc-et-Senans.
Ah, il faut le décrire, parce que c'est un lieu qui est quand même assez particulier.
C'est un lieu extraordinaire. C'est une saline, c'est-à-dire comme il y a de l'eau salée à extraire dans cette région. Sous Louis XIV, Nicolas Ledoux, architecte génial et prophétique, a fait les plans et a construit la Cité du Soleil. Ça s'appelait la Cité du Soleil. Il n'en a fait que la moitié. Ça devait être un cercle complet. Il n'a fait que le demi-cercle. Où il y a, au centre, la maison du directeur. Et composant le demi-cercle, des grandes maisons qui servaient à loger les ouvriers qui travaillaient dans ces salines à extraire le sel. C'était un phalanstère. Enfin, pour Nicolas Ledoux, il le rêvait, il l'a rêvé comme un phalanstère. C'est-à-dire comme, disons, une usine très progressiste, selon lui, où justement les travailleurs seraient bien logés, bien traités. Est-ce que ça a été tout à fait ça? Je ne suis pas sûre. Mais disons que nous, en juillet, août 68, que nous avons passé là-bas, on a senti que dans la rêverie de Nicolas Ledoux, bon, il n'avait pas tout résolu par son architecture, mais quand même, il y avait quelque chose d'inspirant pour un petit collectif comme le nôtre, tout chamboulé, tourneboulé que nous étions après mai 68.
Et l'aventure collective du Théâtre du Soleil, elle commence
en 64, elle commence même avant, elle commence à l'Association Théâtrale des étudiants de Paris, puisque c'est là que nous nous rencontrons tous, donc deux, trois ans auparavant.
Dites donc, l'esprit de 68, on pourra peut-être le rebaptiser l'esprit du Théâtre du Soleil. Hein.
Oui, nous, un peu, de façon un peu prétentieuse, on répond toujours, mais nous, on existait avant 68. Alors, bon, mais 68 aussi existait avant 68. C'est-à-dire, c'était dans l'air quand même. Ça allait arriver. Et ça ne pouvait surprendre que les politiques, qui sont toujours surpris partout, et vraiment les gens qui étaient totalement aveugles. Moi, je pense que c'était là, et probablement que nous étions dans cette prédiction de 68, mais sans le savoir. Enfin, moi, je ne le savais pas.
Il se trouve, en tout cas, que le monde du théâtre n'est pas resté à l'écart de ces événements. Le 15 mai, des manifestants s'installent au théâtre de l'Odéon pour exprimer leur soutien aux travailleurs en grève, mais aussi pour tenter de repenser le théâtre.
Odéon, étudiants, ouvriers, Odéon.
Ce matin, le drapeau noir et le drapeau rouge flottaient au fronton de l'Odéon Théâtre de France. Hier soir, à 23h45, les spectateurs croisaient les manifestants sur les marches du théâtre. La police n'intervenait pas. Cet après-midi encore, les alentours du théâtre étaient libres d'accès.
Ce sont les 4 ou 5 personnes de différentes tendances qui acceptent de venir se réunir maintenant en comité pendant 10 minutes pour décider du thème de la discussion.
À l'intérieur, plus de 3000 manifestants prenaient aussitôt place pour un meeting permanent. Et tandis qu'un membre du mouvement du 22 mars déclarait « La prise de l'Odéon est une mesure d'agitation révolutionnaire », Madeleine Renaud, Jean-Louis Barrault tentait de calmer les esprits. « Notre théâtre n'est pas un théâtre bourgeois ». Raymond Rouleau, rallié à la cause des manifestants, déclarait « Je pense que d'autres théâtres deviendront des lieux de réunion ». Vers 11h, nous pouvions joindre le comité d'action créé à 6h du matin.
Nous sommes dans le bureau de la commission d'information de l'Odéon, donc qui s'est installée ici dans les locaux. Je pense qu'il est bon de faire une mise au point. Pourquoi a-t-on pris l'Odéon? Qui a pris l'Odéon? Et que faire maintenant à l'Odéon?
Bon, le comité d'action révolutionnaire qui a pris l'Odéon vient de publier un communiqué qui vaut pour toute la presse. Je vous le lis. À la suite de l'appel du mouvement du 22 mars, au cours de son assemblée générale du 14 mai, il a été décidé de la création de comités d'action révolutionnaire sur tous les lieux de travail. Un certain nombre d'artistes, de comédiens, d'étudiants et d'ouvriers ont décidé de fonder un comité d'action révolutionnaire sur les lieux de la culture bourgeoise. L'Odéon fut choisi non pas pour attaquer personnellement une compagnie, mais pour que le théâtre de France cesse pour une durée illimitée d'être un théâtre. Il devient à partir du 16 mai, premièrement, un lieu de rencontre entre ouvriers, étudiants, artistes et comédiens. Deuxièmement, une permanence révolutionnaire créatrice qui entreprend un travail de réflexion sur notre refus de la diffusion du spectacle marchandise. Troisièmement, un lieu de meeting politique ininterrompu, comme cela commence dès ce soir à 24 heures.
Cette occupation du théâtre de l'Odéon, Ariane Nouchkine, elle vous a toujours laissé un peu sceptique, je le vois dans votre regard en face de moi. Avec quoi est-ce que vous étiez en désaccord?
Je pense que c'était du théâtre, voilà, c'est ça. J'étais pas d'accord, j'étais pas d'accord du tout avec la façon dont on a traité Barrault. Et c'est là où d'ailleurs où j'ai commencé à voir les férocités de certains égos.
Il y avait cette expression théâtre bourgeois. Qu'est-ce que ça vous inspirait cette expression théâtre bourgeois?
Non, mais c'est pas ça. Un événement comme ça, il s'agit quand même de personnes. Hein. Donc tout d'un coup, il y a des personnes dont on se demande quand même pourquoi, tout d'un coup, elles sont au pilori. Voilà, hein. Donc, je n'aimais pas le côté pilori de la prise de l'Odéon. Voilà, je n'aimais pas ça. Donc, j'ai été voir, mais je n'y ai pas participé. J'y ai vu et entendu un art oratoire. Ça, c'était assez intéressant, mai 68. C'est-à-dire que moi, j'ai des souvenirs où tout d'un coup, chez des gens vraiment très simple, hein, parce que quand même il y avait des gens qui venaient voir ce qui se passait à l'université, à l'Odéon, etc., et qui n'étaient pas du tout des habitués de l'Odéon. Et tout d'un coup, on les entendait parler et on découvrait un art oratoire réel.
Alors qu'est-ce qu'ils disaient précisément sur le théâtre?
Ah non, sur le théâtre, ces personnes-là ne parlaient pas de théâtre. Ces personnes parlaient de révolution, de progrès social, de vraies grèves, c'est-à-dire de grèves générales, etc. Elle ne parlait pas de théâtre.
Elle parlait un peu quand même de cette idée de retrouver un public populaire, de trouver même un public populaire.
Oui, mais bon, pardonnez-moi, mais il y avait quelqu'un comme Villard qui en avait parlé bien avant, et non seulement il en avait parlé bien avant, mais il l'avait vraiment cherché, et il l'avait, d'une certaine façon, trouvé. Hein. Je dirais même que la prise de l'Odéon, pour moi, elle était un peu la préface à ce qui s'est passé d'épouvantable à Avignon, après. Hein, où tout d'un coup, des gens qui n'avaient aucune légitimité à le faire ont commencé à, je dirais, martyriser quelqu'un comme Villars ou même ou Béjart, alors que lui, au fond, ce fameux théâtre populaire, oui, il en avait été non seulement le défenseur, mais le concept du public populaire, le concept de théâtre populaire, c'était lui qui l'avait, non pas inventé, mais concrétisé.
Et porté,
et il y avait passé sa vie, et il s'est... Voilà, donc, quand je voyais des exhibitionnistes l'insulter, lui cracher au visage, etc., pour les gens qui, comme moi, l'aimaient, lui devait beaucoup, puisqu'il avait ouvert un chemin de... D'une certaine façon, Villars nous assurait d'une mission. Il nous donnait un chemin moral aussi. Donc, pour moi, c'était la face sombre de mai 68.
Ouvrir le théâtre à des gens qui n'ont pas forcément accès au théâtre, vous le disiez, ça a été une de vos missions, ça l'est toujours, oui, encore aujourd'hui, Ariane Mnouchkine. Comment on s'y prend ?
Avec de la patience, je crois, et aussi en reconnaissant nos alliés. Par exemple, nos alliés, eh bien, ce sont les professeurs. Voilà. En fait, c'est eux qui nous amènent le public populaire. Parce que moi, je serais bien incapable de vous dire, parce que nous ne tenons pas des fiches, je ne vais pas vous raconter, Augustin, que tel soir, je sais que dans la salle, j'ai 5% ou 10% ou 15% d'ouvriers, comme on disait à l'époque. Hein. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que quand des collégiens viennent, comme ils viennent tous les soirs, puisqu'on a un quart de notre salle qui est composé de collégiens et de lycéens tous les soirs, là, je sais que nous avons toute la France. Par eux, je sais qu'il y a, sinon des ouvriers, du moins des enfants ou des petits-enfants d'ouvriers qui viennent au théâtre, qui ne seraient pas venus au théâtre avant Villars, justement, hein, puisqu'on reprenons les lignées. Parce qu'après tout, mai 68, c'est dans une lignée d'événements. Nous sommes dans la lignée de ces rêveurs extraordinaires qu'était le Conseil national de la Résistance, qui pendant la guerre, alors qu'il n'y avait strictement aucun espoir. Et eux, ils ont rêvé tout ça. Le théâtre populaire, il vient de là. Hein. Et les rêveurs de 68 ont pris les places, ont pris les théâtres. Mais il s'est dit beaucoup de choses aussi en dehors de l'Odéon. Voilà, hein.
Précisément, est-ce qu'il y a eu un apport de mai 68 à la création théâtrale pour vous, à la façon de faire du théâtre ?
Je pense que ce serait absurde de ma part de dire non, il n'y a pas. Il n'y a pas eu. Bien sûr que si. Il y a certainement eu. Bien sûr que si.
Peut-être voilà. Même au sein de votre compagnie.
Certainement. Certainement. Je pense que probablement que le fait qu'on ait accéléré cette envie de faire une création collective, qu'on a faite immédiatement, donc l'été suivant, qui s'est appelé Les Clowns, je suis certaine que ça a accéléré le mouvement. Bien sûr. Bien sûr. On ne peut pas, je veux dire, on ne traverse pas un événement comme ça. Ou alors, ça veut dire qu'on s'est bouché les yeux, les oreilles, etc. Non, nous sommes des médiums, de toute façon. Quand on est un acteur, une actrice ou un metteur en scène, on doit se laisser traverser par ce qui arrive. Étrier.
Je ne peux pas m'empêcher de remarquer, Ariane Mnouchkine, qu'aujourd'hui, le théâtre, à quelques exceptions près, se fait à travers l'action de grandes institutions. Ce qui n'est pas très 68, ça. Être à la tête d'une institution publique, ça, c'est quelque chose que vous avez toujours refusé.
Oui, parce que ça ne me convient pas. Voilà. Mais je suis, dans mon jugement sur les grandes institutions, je suis devenue, évidemment, moins sévère que je ne l'étais quand j'étais très très jeune. Je reconnais leur utilité. Ce que je n'aime pas, au fond, c'est quand on ne laisse pas la place aux autres, c'est-à-dire à quelque chose de différent. Il faut faire très très attention que si, par exemple, cette fameuse mise en concurrence, après tout, il y a de la concurrence, j'admets que pour obtenir quelque chose, on doit comparer des projets. Voilà. Mais pas en arriver au point que les tout jeunes de mes collègues n'auraient plus cette faculté de présenter des projets, mais serait mise en concurrence face à un cahier des charges. Voilà. C'est-à-dire une mise aux normes des lieux ou des institutions qui leur sont proposées. Voilà. Je pense que dans cette fameuse exception culturelle que nous défendons, que nous devons défendre, et que on nous envie ailleurs, hein, si elle ne permet pas des exceptions, justement, alors elle n'est plus une exception culturelle. Voilà. Et j'ai peur, en ce moment, que peut-être par manque de vigilance, il n'y a plus de place pour un jeune homme de 20 ans ou une jeune femme de 22 ans qui font du théâtre avec une bande d'amis et qui ont un projet fou mais merveilleux qui ne va pas dans un cahier des charges, qui doit avoir sa, voilà, son île.
On va retourner en 68, Ariane Mnouchkine, pour vous, parce que vous me l'avez demandé et que ça nous enchante pour entamer cette semaine, John Baez, qui chantait Dylan en 68 à Shall Be Released. Vous êtes sur France Inter avec Ariane Mnouchkine, vous écoutez Boomerang.
Sur France Inter,
mai 68,
Augustin Trapenard.
C'est-à-dire qu'on l'imagine aisément coiffé d'un bonnet phrygien, ce matin brandissant Fourche, Faucille ou l'intégrale des œuvres de Shakespeare, en tête de cortège, claironnant de sa voix profonde, un hymne, une tirade ou un poème, regard toujours aussi vif, où la douceur ça, se mêle à la fermeté, crinière blanche, maintien d'impératrice, même si je doute qu'elle valide ce terme, avec son petit gilet rose. Ce matin, face à moi, Ariane Mnouchkine, première invitée de notre semaine, consacrée à mai 68, votre spectacle, Ariane, une chambre en Inde, vient de reprendre à la carte de Vincennes, un spectacle, je le disais, sur la nécessité du théâtre aujourd'hui, porté par la compagnie du Théâtre du Soleil, un spectacle qui met à l'honneur les langues, mais aussi la musique. En quoi la musique est-elle une composante essentielle de votre théâtre, à vous ?
Ah ben moi, je pense que la musique est une composante essentielle du théâtre. Voilà. Si vous pensez à tous les théâtres du monde, ils sont musicaux. Si vous pensez à la tragédie antique, elle était musicale. Molière était... Beaucoup de ces pièces étaient musicales.
Qu'est-ce qui se passe quand on entend de la musique, quand on écoute de la musique au théâtre ?
Mais je pense que la musique, c'est un autre texte au théâtre. Hein. Elle donne parfois l'espace, parfois elle donne le destin, parfois elle accompagne un personnage, etc. Mais c'est surtout, je pense, qu'elle aide le spectateur. C'est elle aide le corps du spectateur. Parce qu'après tout, quand on demande à un public de venir voir un spectacle, qu'il dure 1h30 ou 3h, peu importe. 1h30, ça peut être très pénible hein, quand c'est ennuyeux. Donc, il y a des corps. Il y a des corps qui sont là, à qui on demande d'être assis et un peu immobile. Et c'est fatigant. C'est fatigant. Et le théâtre, en plus, demande au public, demande au spectateur un travail. Le spectateur, c'est vraiment le dernier metteur en scène du spectacle. C'est lui qui complète les vides qu'un auteur judicieux a laissés et qu'un metteur en scène judicieux devrait laisser. C'est-à-dire, nous suggérons, hein, nous disons, voilà, là, ça, c'est un arbre, mais bien sûr, vous savez bien que nous sommes dans la forêt.
Et la musique serait un catalyseur de création pour le spectateur ?
Pas seulement ça, oui, d'abord, je crois que ça l'est, souvent, et je pense aussi que c'est quelque chose qui, disons, permet au corps du spectateur de bouger à l'intérieur. Et donc, voilà, donc de moins sentir cette contrainte qui est demandée, qui est quand même de faire silence et d'être immobile extérieurement. Alors qu'en fait, moi je pense que les spectateurs à l'intérieur bougent énormément.
Puisqu'on parle de vos combats ce matin, les vôtres sont associés dans l'imaginaire de beaucoup à ceux de l'auteur Hélène Cixous. À quand remonte votre rencontre avec Hélène Cixous, avant ou après 68 ?
C'est après 68, c'est même, je crois, bien après, nous étions déjà à la Cartoucherie. Et c'est une rencontre qui s'est faite parce qu'elle est venue avec Michel Foucault et le GIP. Le GIP, à l'époque, c'était, si je me souviens bien, le groupe Information Prison. Et donc, elle travaillait, elle militait avec Michel Foucault à ça. Et ils sont venus nous demander de faire un petit spectacle militant, mais qui ne devait pas dépasser 2 minutes et demie, parce que, nous disait-il, c'était pour jouer devant la santé. Et normalement, au bout de 2 minutes, la police serait déjà là, donc on ne pourrait pas jouer plus de 2 minutes et demie. Et donc, nous avons fait ce petit spectacle, et nous avons été devant la santé, et on n'a même pas duré 2 minutes et demie, d'ailleurs, parce que la police était déjà là avant qu'on arrive. Ils savaient qu'on était là. Voilà.
De 68, vous en avez parlé beaucoup avec elle. Elle qui a toujours dit, quoi qu'on en dise, les femmes avaient été, pour ainsi dire, exclues des débats. C'est quelque chose qui revient très souvent dans son discours sur 68.
Mais en même temps, Hélène est d'une certaine façon est bien plus 68arde que moi, hein, en fait. Elle est d'abord parce que quand même, en créant l'université de Vincennes, etc., elle a participé d'une façon immense à tous ces mouvements. Et elle est moins critique que je ne le suis. Mais je n'avais pas cette conscience, moi, que les femmes... Mais bon, c'est peut-être parce qu'à l'époque, on n'avait pas conscience encore vraiment combien les hommes tenaient le micro, combien ils monopolisaient la parole. C'était, comment dire, terrible à dire, hein, mais c'était encore normal. Donc, comme ça ne se produisait pas dans notre petit cercle, dans notre théâtre, que la parole était partagée. Oui. Hein. Je remarquais moins que ça ne l'était pas du tout ailleurs. Voilà.
Aujourd'hui, Arène Mnouchkine, au regard de tout ce qui s'est passé depuis l'affaire Weinstein, quel regard est-ce que vous portez sur ces questions ?
Il s'est passé quelque chose d'immense, hein, quand même. Il s'est passé quelque chose d'immense. Et donc... Mais pas définitif. C'est-à-dire, je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de travail. Et que, une fois cette explosion atomique, il faut que ça continue, mais peut-être maintenant, il faut que la justice fasse son travail. Voilà. Mais c'est quand même extraordinaire, cette révélation. Voilà. Parce que, est-ce que c'est déjà une révolution ? Je ne sais pas, mais c'est certainement une révélation, c'est-à-dire que elles ont arraché le voile, voilà. Elles ont arraché pas leur propre voile, elles ont arraché le voile de certains hommes qui avançaient masqués. Et elles ont arraché ce masque de certains hommes, je répète. de certains hommes. Je ne vais pas dire le voile des hommes. Elles ont arraché le masque de certains hommes.
Ça me passionne ce lien que vous faites entre révolution et révélation. Ariane Mnouchkine, vous qui êtes si sensible au langage, est-ce que vous pensez que mai 68, puisqu'on en parle aujourd'hui, a pu être aussi une révélation?
Certainement, dans certaines... Oui, pour certaines choses, certainement.
C'est un texte d'une liberté folle que vous avez choisi de nous lire ce matin, un texte d'Hélène Cixous, justement, daté du 4 janvier 2018. On vous écoute?
Oui, je vais mettre mes lunettes. Alors, c'est un texte que Hélène appelle « L'anniversaire ». Dis-moi, était-ce une vraie révolution? C'était une révolution de rêve, donc la révolution par excellence, et pas sanguinaire. Un soulèvement avec un Rimbaud pour prophète. Une tragédie comique. Le pays roule sur le dos, on élève des montagnes de pavés. Des dizaines de milliers d'étudiants Prométhée font la pige au vieux dieu. Fin des barbons et des moisis. Chose inouïe dans ce rêve, l'histoire vaudeville. On voit en mai le plus général des généraux, en portant sa statue galonnée sous son bras, détaler et disparaître par la coulisse, côté jardin. Scène invraisemblable en réalité, mais en rêve tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Dans une autre scène, c'est la Bastille qui tombe en miettes, depuis le temps qu'elle ronchonnait, déguisée en université. Enfin, on se la sort bonne. Dans les amphithéâtres, les mandarins périmés sont démandarinisés. Dans la ville délivrée, tous ceux qui étaient muets parlent. Les murs s'égosillent. Les rues s'arrachent les pavés des yeux. Les manifs font la mer en chantant « Fais ce que voudras ». Jamais Paris n'a si totalement rimé avec « ri ». Les foules, qui avaient égaré le génie de 89 au fond d'un tiroir, se réveillent un beau samedi, éclatantes de jeunesse. Et naturellement, on voit plus d'un ciel marcher sur la terre. C'est le joyeux désordre de l'humanité, et il est beau comme un âge d'or, après 200 ans de ténèbres. Tout ça avait été prédit et espéré depuis des temps et des temps par l'adorable Alcofrida Snazier. Vous savez, ce grand abstracteur de quintessence de bouffonnerie communément arrêté sous le nom de François Rabelais, cet arlequin qui, rue des écoles, matamorait tous les églises, les états, les usines et les autres autorités, et à qui nous devons l'élixir de jouvence de la littérature française. D'ailleurs, l'esprit de la divine extravagance soufflait tant de fantaisies et d'élans amoureux, car en 68, tout le monde s'était mis à faire l'amour à l'amour, qu'accoururent à la fête les plus vigoureuses et enragées des poètes du monde. Tous se tirant des exils et des dictatures qui chourmaient la planète. J'ai vu dans la rue 68 se hâter Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Vassili Vassilikos, Pierre Alechinski et... Ah mais non! Là, écoute, là je t'interromps. Et l'agressivité orgueilleuse, la confusion des haines, l'injustice, l'injure, l'enflure phallique, la casse auto-immunitaire, la brutalité qui blesse le rêve... La 68 hardise, quoi. Tu n'en dis rien? Vraiment? Faut vraiment être toi pour être si totalement... Si... Oui. Mais le vacarme tyrannique trouve assez de haut-parleurs. Il faut bien qu'il y ait quelques voix pour rendre la parole au « si » d'espérance et au silence souriant. N'essaie pas de me réveiller.
Merci, Ariane Mnouchkine, de terminer cette première émission autour de mai 68 sur le rêve. Merci d'être venu faire un tour dans Boumang. Je rappelle qu'une chambre en Inde, c'est jusqu'au 29 avril à la cartoucherie de Vincennes. Et c'est un grand spectacle. 68 et pas une ride, point d'interrogation, ça continue toute la semaine. Dans Boumang sur France Inter et dans l'instant M de Sonia De Villers que l'on retrouve juste après ça.
Je t'écris, c'est moi. Il est tôt encore, j'ai rêvé si fort. Le papier sous mes doigts est dur comme ton corps. Je sais, je dors, je dors. J'hallucine, ton adresse. Là sur le côté, ça fait comme une promesse. Dieu, qu'elle est banale, la petite carte postale qui fait du mal. J'ai choisi cette image, je la trouve jolie, peut-être un peu sage, à vrai dire, sans rougir, je n'ai rien à te dire, je veux juste t'écrire, t'écrire. Je dessinais ton nom et ton adresse. Ça fait comme une promesse. Dieu, qu'elle est pas mal, la petite carte postale qui fait du mal. J'aimerais te parler.
La carte postale, le tout nouveau titre de la formidable Juliette Armanet sur France Inter. Tout de suite, Sonia Devillers, non moins formidable, les médias.
Merci Augustin, à demain.